Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vincent ainsi que Charlotte, qui a 19 ans, ont proposé à Franck Ferrand de raconter l'histoire du comte de Fersen. Est-ce possible? Eh bien, je vous pose la question. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Et comment c'est possible? Du reste, il y a des demandes qui sont si pressantes et si bien formulées qu'on ne peut pas y résister. Je dis ça puisque Charlotte a accompagné sa demande de tout un dossier documentaire, figurez-vous. Alors, c'est une belle histoire que nous allons raconter cet après-midi. Et comme souvent, c'est une histoire triste. C'est pourquoi j'ai demandé à Evelyne Levert de venir nous réconforter et de nous donner quelques forces pour aller jusqu'au bout.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurent qui souhaite connaître l'origine de l'expression « tomber en pamoison ».
En pamoison comme le délicat Fersen au pied de la reine. Nous sommes déjà à Trianon, Céline, et l'heure est aux amours interdites.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
Voici une aventure sentimentale qui commence comme un conte de fées et qui va se terminer comme la pire des tragédies. La relation entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen a commencé dans la splendeur d'un bal à l'opéra. En tout cas, ça fait peut-être partie de la légende, ça, mais c'est une belle légende. Nous sommes le 30 janvier 1774, un dimanche soir. On est dans cette série des bals qui va marquer l'ouverture du carnaval. C'était comme ça tous les ans à Paris. En l'occurrence, on est au grand bal organisé par l'opéra. C'est un bal très couru, bien entendu. Et c'est surtout un bal masqué, ce qui autorise bien entendu toutes les licences et même quelques polissonneries. Il y a un jeune homme qui se rend à ce bal, il s'appelle Axel de Fersen. Oh, il est vraiment très beau, il a 18 ans, voilà comment Henri Bordeaux nous le dépeint. Un ovale parfait, dit-il à propos de son visage, le nez régulier, des grands yeux voilés, la bouche mince bien qu'un peu grande et sur la jeunesse, un air de noblesse et de tristesse qui devait le prédisposer aux tragiques amours. Voilà ce beau Suédois, car c'est un jeune Suédois, qui vient donc s'encanailler un peu. Tout de même, on est au bal de l'opéra, on est dans une soirée, dans une réception, tout ce qu'il y a de présentable, bien entendu, vient assister à ce genre de festivité, tout ce que la cour peut compter de plus éblouissant. Et quand je dis cela, il y a même à ce bal, dit-on, il y aurait, paraît-il, la dauphine. Elle est en France depuis presque 4 ans, cette dauphine Marie-Antoinette. Elle est la fille de l'impératrice Marie-Thérèse, elle est autrichienne, bien entendu. Elle a épousé le petit-fils du roi régnant, un roi qui n'en a plus pour très longtemps, puisqu'on est en janvier 1774 et que Louis XV va mourir en mai de la même année. Ce sont donc les toutes dernières semaines du règne de Louis XV. Ça, bien entendu, nous le savons, nous, mais les contemporains ne le savent pas encore. Fersen est un peu ébloui par ce qu'il voit, la splendeur des toilettes, le tourbillon extraordinaire de ce bal. Vous savez que on danse, c'est pas comme aujourd'hui, nous trémoussons comme nous pouvons, plus ou moins, n'est-ce pas, avec des gens plus ou moins doués. Mais à l'époque, les bals, la danse, tout cela obéit à des règles extrêmement précises. Et c'est un véritable spectacle, aussi bien pour ceux qui dansent, bien entendu, que pour ceux qui sont sur le bord de la salle et qui admirent le spectacle. Fersen est, dit-on, un très beau parti puisque sa famille est une des grandes familles de Suède. Nous allons voir que son père occupe un très très haut poste. Hein. C'est le feldmaréchal Fersen. Il a été président de la Diète. Enfin, c'est un haut personnage de Suède. Sont des gens donc très lancés, très riches. Ils ont aussi la réputation d'être très beaux. Le père, la mère, tout le monde est beau dans la famille. Et bien entendu, le jeune Axel qui donc s'amuse et qui va, pendant le cours de cette soirée à l'opéra, qui va croiser une jeune femme enveloppée d'un domino blanc et qui porte un loup de velours noir. Tous les deux rient, ils passent un très bon moment. Et puis, au bout d'un moment, on commence à murmurer sur le passage de la jeune fille. Eh oui, il fallait s'y attendre, elle est habituée. Vous savez, ça n'est pas la première fois que ça lui arrive. On commence à murmurer, le murmure s'amplifie. C'est la dauphine, c'est la dauphine. Et oui, on a reconnu, malgré son masque, on a reconnu peut-être à son rire cristallin, on a reconnu Marie-Antoinette. Elle ne va pas pouvoir rester bien longtemps au bal. Elle aussi a 18 ans et elle aussi est une véritable beauté. Voilà ce que nous dit France Augereau. Elle a les cheveux blonds, le front élevé, le visage un peu allongé. Ses yeux bleus expriment dans leur vivacité la tendresse et la douceur plus que l'esprit. Son nez est d'un aquilin trop prononcé mais non disgracieux. Les lèvres sont épaisses et vermeilles. Son sourire laisse voir les plus belles dents du monde. La blancheur du sein est éblouissante. Le plus vif carmin en relève encore l'éclat. Il y a beaucoup de noblesse et de dignité dans sa démarche. Son abord est encourageant, sa voix douce, ses manières affables. Mais que peut-on imaginer de mieux? Vous imaginez cette très belle jeune femme face à ce très beau jeune homme. Ils ont le même âge, tout va bien, c'est la fête, c'est le bal. Elle aussi, je vous l'ai dit, est en quelque sorte un petit peu étrangère dans cette cour de France, puisqu'elle est autrichienne, comme lui est suédois. Fersen, visiblement, a eu du succès auprès de cette jeune femme qui doit donc s'en aller sur la pointe des pieds parce qu'on a reconnu la dauphine. Elle va rentrer à Versailles. Une nuit encore fort peu présentable pour une dauphine de France. Vous imaginez, elle va rentrer aux premières lueurs de l'aube. On pourrait se dire que c'est le début d'une grande histoire. Oui, c'est le début d'une grande histoire. Mais seulement, il va falloir être patient parce qu'ils ne vont plus se voir, ces deux-là, pendant 4 ans. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Fersen, à cette époque, effectue, comme tous les jeunes gens de bonne famille de l'époque, de très bonne famille, il effectue son grand tour, c'est-à-dire une espèce de grand voyage à travers l'Europe pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, pour découvrir les merveilles de la civilisation. Il va terminer son grand tour, puis il va rentrer en Suède, et il ne revient à Versailles qu'en 1778. Sauf que lorsqu'il remet les pieds, ou plutôt lorsqu'il met, pour la première fois, les pieds au palais, résidence de la cour et du roi et de la reine, c'est aux côtés de l'ambassadeur de Suède. 4 ans ont donc passé depuis le bal dont je vous parlais à l'opéra. Ce jour-là, Axel revoit donc Marie-Antoinette, sauf que maintenant elle est devenue pleinement reine de France, bien entendu, et elle est sublime, elle est désormais une femme épanouie, elle est d'une élégance absolument incroyable. On connaît tout le faste des toilettes de la jeune reine. Elle porte chaque jour une robe de fantaisie le matin, un grand habit pour le dîner, c'est-à-dire le repas de la mi-journée, une polonaise pour Trianon et une robe riche sur panier pour le souper. Et elle en change et elle en change et c'est là encore un tourbillon. Elle aime beaucoup s'amuser. Fersen, lui, est beaucoup plus réservé. Il regarde tout cela avec de grands yeux, mais pour l'instant, il se contente de l'admirer de loin. La jeune souveraine, raconte André Castelot, n'est entourée que d'aimables girouettes, d'amusants et cervelés. Aussi se sent-elle attirée par la grâce mélancolique et par la gravité du beau Suédois. Très soigneusement, Marie-Antoinette regarde le pourpoint bleu sur lequel s'ouvre une tunique blanche, la culotte de chamois, le shako noir surmonté d'une aigrette bleue et jaune. Elle regarde, elle admire. Sans doute ne l'aime-t-elle pas encore, mais elle lui témoigne déjà un très vif intérêt. On peut dire que pour Marie-Antoinette, la présence du beau Fersen dans son environnement, de plus en plus proche, vous allez voir, va probablement modifier son quotidien et le teinter de toutes les grâces de la sentimentalité.
Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Axel de Fersen et à sa relation avec Marie-Antoinette.
Alors, le jeune comte de Fersen est, vous l'aurez compris, un personnage important et donc on suit ses activités d'assez près du reste. Et l'ambassadeur du roi de Suède, le roi c'est le roi Gustave III, très brillant monarque, on en parlera tout à l'heure. Cet ambassadeur écrit en 1779 dans son rapport, je le cite, « Le jeune comte de Fersen a été si bien vu de la reine que cela a donné des ombrages à plusieurs plusieurs personnes. J'avoue que je ne puis pas m'empêcher de croire qu'elle avait du penchant pour lui. J'en ai vu des indices trop certains pour en douter. Donc Marie-Antoinette, qui pourtant, vous imaginez, très épiée, a reçu une éducation plus que princière et est habituée à l'étiquette tellement pesante de la cour de Versailles, Marie-Antoinette n'arrive pas à cacher son penchant pour le beau Fersen, qui d'ailleurs, dans la foulée, va devenir très vite colonel du régiment royal de Pont. Il faut dire que le poste venait à vaquer et évidemment c'est le roi qui fait les nominations. Louis XVI, benoîtement, à écouter, peut-être pas son épouse elle-même, mais les ministres qu'elle avait circonvenus. Toujours est-il que le régiment a été donné à Fersen. Ça devient gênant, cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de cela. Fersen se rend bien compte qu'on murmure maintenant sur son passage, encore plus qu'on ne murmurait sur celui de la Dauphine il y a quelques années. C'est une situation sans doute assez pénible à vivre et il décide, soit pour ne pas compromettre la Dauphine, soit pour d'autres raisons que nous essaierons tout à l'heure d'évoquer. Et il décide de mettre un peu de distance, comme on dit. Et vous savez qu'on est à la grande époque de la guerre d'Amérique. Que cherchent les jeunes nobles à l'époque, sinon aller faire leurs preuves au feu, bien entendu. Et le voilà qui va à son tour traverser l'Atlantique pour participer à cette guerre d'indépendance. Il s'en va au printemps 1780. Il embarque sur un vaisseau de 64 canons. Ça doit être assez dur pour la reine. Et d'ailleurs, on a la preuve qu'elle a mal vécu ce départ et qu'elle a été chagrinée. Il y avait un nuage sombre qui a passé sur Trianon à ce moment-là. D'autant plus que la séparation va être longue. Que fait Fersen en Amérique? On le verra tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'ils vont être séparés pendant 3 ans. Et c'est seulement un après-midi de juin 1783 qu'ils vont se retrouver. Alors il faut imaginer Marie-Antoinette dans une salle qu'il est devenu extrêmement facile d'imaginer puisqu'elle a été entièrement restaurée il y a quelques années. Elle est devenue absolument sublime. C'est ce qu'on appelle le salon doré dans les petits appartements, dans l'appartement intérieur de la reine au château de Versailles. Elle est là en train de jouer de la harpe avec ses dames. C'est un de ses plaisirs de jouer de la harpe. Marie-Antoinette est devenue, vous savez, une sorte de figure complètement. On dit par exemple que dans la seule année 1780, elle avait commandé 190 robes. Enfin, vous voyez, bon. Elle est en train de jouer tranquillement de la harpe et un huissier on ne frappe pas à Versailles, on gratte à la porte et on entr'ouvre la porte et voilà Monsieur de Fersen de retour de ses tout nouveaux États-Unis d'Amérique où il vient de passer 3 ans. La cour va dire qu'il a prématurément vieilli et que le feu ne lui a pas fait du bien, à moins que ça n'ait peut-être ajouté quelques rides à son charme. La reine, de son côté, qui a maintenant 28 ans, a déjà donné naissance à 2 enfants. Et voilà comment nous l'a décrit Castelot de nouveau. En dépit d'un front trop large, d'un nez un peu gros, d'un menton lourd, de sa fameuse lèvre autrichienne, des yeux de myope, elle est dans tout l'éclat de sa beauté. Axel ne voit que ce cou grec. Ça, il y était, André Castelot, c'est pas possible. Il ne voit que ce cou grec, cette taille longue, cette démarche caressante et surtout cette éblouissante carnation de blonde, cette peau ayant un velouté incomparable, une peau si brillante, si transparente que son peintre, Madame Vigée Lebrun, se plaignait de ne pouvoir en rendre l'effet car elle ne prenait point les ombres, comme cela est joliment dit. Fersen va demeurer en France maintenant pendant quelques temps. Il devient du reste colonel du régiment de royal suédois. Il vit à Paris. Quand je dis il vit, c'est vraiment à prendre au sens fort et nous verrons dans un instant quelle vie il peut mener à Paris pendant ces années. On dit que c'est quand même un homme à femme, hein, qu'il a quelques maîtresses à son actif. Il vit dans un bel hôtel de la rue de Matignon. Et on peut se poser, bien entendu, à ce moment-là, la question de la nature des relations entre la reine et Fersen. Alors, j'ai eu l'occasion d'aborder déjà la question un certain nombre de fois. Je n'ai pas d'avis très tranché sur la question. Nous verrons si mon invité est plus calé que moi sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que Fersen voit la reine plusieurs fois par semaine, 3, 4 fois par semaine, généralement à Trianon. Alors, pendant des périodes extrêmement brèves, ils sont rarement plus de 20 minutes ensemble. Mais ça suffit à approfondir leur amitié, ça suffit à développer des liens qui vont apparaître encore plus forts à partir de l'affaire du collier, dans les années 1785, quand la reine devient vraiment la cible d'une opinion publique de plus en plus montée contre elle. De son côté, voilà le genre de lettre que Fersen écrit à sa sœur. « Je commence à être un peu plus heureux, car je vois de temps en temps mon amie librement chez elle, écrit-il, et cela nous console un peu de tous les maux qu'elle éprouve, pauvre femme. C'est un ange de bonté, une héroïne de courage, de sensibilité. Jamais on n'a aimé comme cela. » Marie-Antoinette serait-elle une des conquêtes de Fersen ? Vous avouerez que ça paraît quand même assez peu probable comme cela. Nous sommes bien en présence de la reine de France et de ce qui, incontestablement, de celui qui ne peut passer que pour son ami de cœur.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand, Axel de Fersen et Marie-Antoinette.
Alors vient la Révolution et dans les périodes compliquées, avec la mort du Dauphin, avec la réunion des États généraux, la proclamation de l'Assemblée nationale et puis l'insurrection, vous savez, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, on pourrait penser que Fersen est là, mais non, parce qu'il est à son régiment, n'est-ce pas ? Et son régiment est stationné à Valenciennes. C'est peu après que Marie-Antoinette va néanmoins le réclamer auprès d'elle. Et alors ça, c'est assez extraordinaire, puisqu'il arrive à Versailles juste avant ce qu'on appelle les célèbres journées d'octobre, ces journées du 5 et 6 octobre 1789, au cours desquelles les émeutiers venus de Paris, une majorité de femmes, on disait les femmes de Paris, sont venues réclamer du pain à l'Assemblée nationale, ont été détournées, si je puis dire, vers le château lui-même, et ont fini par prendre le château de Versailles d'assaut. Ils ont ramené la famille royale à Paris, aux Tuileries, et Fersen a vécu tout cela. Il écrit à sa sœur, elle est extrêmement malheureuse, mais très courageuse. Je tâche à la consoler le mieux que je puis, je le lui dois, elle est si parfaite pour moi. Il faut dire que c'est un paradoxe, mais les premiers temps de la Révolution vont permettre à Fersen et à Marie-Antoinette de se voir bien plus que de coutume, en tout cas beaucoup plus longtemps semble-t-il. Le 27 décembre 1789, Fersen écrit de nouveau « Enfin, j'ai pu passer une journée entière avec elle, c'était la première » juger de ma joie. Ce qui veut dire qu'il n'a quand même jamais pu passer ne serait-ce qu'une journée auprès de Marie-Antoinette avant cette période de la fin de 1789 et surtout de l'été 1790 avec ces séjours que fait la famille royale au château de Saint-Cloud qui vient tout juste d'être entièrement rénové, réaménagé pour la reine. Et là vraiment on peut dire que leur intimité est plus grande et s'il est possible que quelque chose se soit passé, ça pourrait être, en tout cas, à ce moment-là. Voilà ce que Fersen écrit à son père le 5 novembre 1790. « Je suis attaché au roi et à la reine par la manière pleine de bonté dont ils m'ont toujours traité lorsqu'ils le pouvaient. » Et je serais vil et ingrat si je les abandonnais quand ils ne peuvent plus rien faire pour moi et que j'ai l'espoir de pouvoir leur être utile. À toutes les bontés dont ils m'ont comblé, ils viennent d'ajouter encore une distinction flatteuse, celle de la confiance. » Évidemment, dans ses lettres à son père, Fersen parle bien du roi et de la reine. On peut dire incontestablement qu'à cette époque, Marie-Antoinette est amoureuse. Dans une des lettres qu'elle écrira à Fersen, un tout petit peu plus tard, à la fin de cette année, elle dit « Je veux vous dire que je vous aime et je n'ai même le temps que de cela. Je me porte bien, ne soyez pas inquiet de moi. Je voudrais bien vous savoir de même. Mandez-moi à qui je pourrais adresser les lettres que je pourrais vous écrire, car je ne peux plus vivre sans cela. Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes. Je vous embrasse de tout mon cœur. » Même en faisant la part de cette espèce de profusion et d'effusion de sentiments du XVIIIe siècle, on est bien là dans une lettre d'amour, que je sache. Dans la soirée du 20 juin 1791, il est très tard, vous savez que deux fiacres, trois même finalement, vont quitter les Tuileries pour regagner le nord de Paris. Le roi, la reine, la sœur du roi et les enfants de France sont en train tout simplement de s'enfuir nuitamment des Tuileries. C'est la célèbre fuite à Montmédy qu'on appelle la fuite à Varennes parce qu'elle s'est arrêtée à Varennes. C'est Fersen qui est à l'origine de tout ça, qui a échafaudé le plan. C'est lui qui a loué la berline dans laquelle la famille royale va monter. La berline avait été cachée dans une grande cour qui se trouve aujourd'hui sur l'avenue de Clichy, du reste. Mais à l'époque, c'était en dehors de Paris, bien entendu. Et au premier relais de poste, celui de Bondy, ce sont les séparations. Le roi dit au revoir à Monsieur de Fersen. Alors, là, c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, j'ai pu constater que la moitié des auteurs, à peu près, disent « c'était tout à fait prévu, il n'y a aucune surprise, etc. » Et l'autre moitié dit « pour Fersen, c'est un déchirement, on ne sait pas ce qui arrive, c'est terrible, Louis XVI a complètement changé les plans. » Nous verrons ce qu'en pense dans un instant Evelyne Levert. Moi, je le sais, mais elle va vous le dire elle-même. Vous savez ce qui se passe. Donc à Varennes, c'est l'arrestation. Toute cette affaire a été extrêmement mal conduite. La berline a pris vraiment beaucoup de retard. Elle n'a pas trouvé les troupes de Bouillet à l'arrivée. Bref, elle est ramenée sous les insultes, sous les crachats à Paris. On peut dire que là, c'est le début du calvaire pour la famille royale. Et le 29 juin, Marie-Antoinette écrit à Fersen « J'existe, que j'ai été inquiète de vous ». C'est quand même fort. Et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra-t-il que celle-ci vous arrive? Ne m'écrivez pas, ce serait nous exposer. Et surtout, ne venez pas ici, sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit, cela m'est égal. Soyez tranquille, il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Oui, on sait ce qu'il en sera. La chute de la monarchie. Le 10 août 1792, le procès du roi et son exécution, le procès encore de Marie-Antoinette. Et le 14 octobre 1793, à la veille de ce procès, voilà ce qu'écrit Axel de Fersen. « Malgré qu'il n'y ait pas de preuves contre cette infortunée princesse, comment peut-on se flatter de rien avec des scélérats qui condamnent même sur des assertions vagues et sur des soupçons ?» Et bien sûr que Marie-Antoinette sera condamnée. Et bien sûr qu'en dépit de tous les efforts de plusieurs, et pas seulement de Fersen, elle sera exécutée. Et Fersen va mener à partir de là la vie quasiment, j'allais dire, d'un veuf, en tout cas de quelqu'un qui a perdu l'amour. Alors il va vivre encore assez longtemps, puisqu'il ne mourra qu'en 1810, dans des circonstances incroyables. Vous savez, le roi Gustave IV, le fils de Gustave III, avait été déchu l'année précédente, il y a eu toutes sortes de complots. Sauf qu'en 1810, un prince danois a été élu prince héritier de Suède, qu'il a été adopté par le frère de Gustave IV. À ce moment-là, Fersen va essayer sans doute de mener ses affaires. Toujours est-il que le nouvel héritier du trône vient à mourir, qu'on en accuse Fersen et que ses fonctions à la cour l'obligent à accompagner le cortège de deuil. Et là, la foule trouve ça vraiment trop indécent. Fersen est devenu une sorte de... Il est devenu le mouton noir. On se jette sur lui. On le déchire, on l'écharpe. Il va mourir lynché par la foule ce 20 juin 1810.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Axel de Fersen avec votre invitée Evelyne Levert, historienne, auteure entre autres de C'était Marie-Antoinette aux éditions Fayard.
Alors, bonjour Evelyne Levert.
Bonjour Franck Ferrand.
Il me semble qu'il y a quelques années maintenant, nous avons déjà eu cette conversation sur la nature de la relation entre Fersen et Marie-Antoinette. Et ça m'amuse de voir si vous avez évolué sur le sujet.
Je ne pense pas vraiment, mais c'est une conversation que j'ai régulièrement.
N'est-ce pas, oui. C'est quand même l'un des grands sujets. D'ailleurs, Guillaume Perrault nous fait un clin d'œil sur Twitter en disant « Eh bien, revenons au vrai sujet ». Il fait allusion à l'actualité lourde du moment. Revenons au vrai sujet. Marie-Antoinette était-elle amoureuse de Fersen? Mais oui, un peu de légèreté.
Oui, ça c'est une évidence. C'est une évidence et il l'a aimée aussi. Mais ils se sont peut-être pas aimés exactement de la même façon. Lui, il est tombé amoureux de la souveraine femme et elle était femme et souveraine. Elle a été femme et lui, il a surtout vu la reine.
Lui était amoureux de la reine, elle était amoureuse de l'homme, si l'on peut dire.
Voilà, je pense que c'est ça. Mais enfin, peu importe, il y a un grand amour quand même entre eux. Et puis, il y a quand même un certain nombre de témoignages qui sont des témoignages tout à fait authentiques. Ce ne sont pas, disons, des élucubrations d'historiens qui se sont penchés. Alors, ça a été extraordinaire parce que au cours du 19e et du 20e siècle, on s'est posé la question, étaient-ils, oui ou non, des amants? Ont-ils couché ensemble? Alors, bien évidemment, cela peut faire sourire. Aujourd'hui, à notre siècle où il y a une liberté...
Oui, tout ça ne pose plus tellement de problèmes.
Ça ne pose plus de problèmes. Si, ça en pose un, bien évidemment, c'est le problème de la légitimité des héritiers du trône. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait sur le moment, on jasait beaucoup, mais si on a les témoignages de ceux qui ont écrit des mémoires, ceux qui ont écrit leurs mémoires les ont écrits après la Révolution. Et des gens qui savaient beaucoup de choses se sont tus. Parce que ça aurait été commettre, si Marie-Antoinette a été la maîtresse de faire scène, je dis bien
si. Une sorte
si,
de sacrilège.
Mais c'était un sacrilège, c'était un crime contre la monarchie. Par conséquent, on s'est tu. Et plus on se tait, eh bien, plus les langues courent. Et quand même, il y a eu des révélations, il y a eu des choses qui ont été publiées, en particulier des lettres. Et c'est tout le problème des lettres de Marie-Antoinette à Fersen et de Fersen à Marie-Antoinette. Ces lettres ont été conservées dans la famille de Fersen. Et en 1877...
D'ailleurs, pas toutes. Il semblerait qu'il y ait eu un tri.
Oui. Il y en a pas mal. Et en 1877, il y a un des arrière-neveux de Fersen, le baron Klikofström, qui a décidé de publier les lettres. Ça fait 2 volumes. La plupart de ces lettres sont très ennuyeuses. Ce sont des lettres politiques. Et il faut voir ce que Fersen a pu échapper et échafauder sur le plan politique. Mais c'est pas ça là qui nous intéresse. Il y a les lettres de Marie-Antoinette. Alors ces lettres ont été publiées avec des points de suspension à certains endroits.
Des lignes entières,
évidemment, au début, à la fin des lettres. Et à ce moment-là, les historiens ont voulu voir les lettres. On a tellement insisté auprès du baron Klikofström que celui-ci a déclaré qu'il avait brûlé les lettres. Comme ça, personne n'en saurait rien. Oui. Seulement, il se trouve qu'en 1982, les héritiers des héritiers de Klikofström ont vu ces lettres, ils se sont dit qu'ils voulaient tirer pas mal d'argent avec ça, et ils les ont vendues à Londres, chez Sotheby. Et à ce moment-là, les archives nationales de France ont racheté les lettres. Et j'ai fait partie des premiers qui ont eu entre ses mains ces fameuses lettres. Ben, je vous assure, j'étais très émue en les regardant. Alors, il est évident qu'il y a des ratures qui sont des ratures sous lesquelles on ne peut rien lire. C'est ce qu'on appelle du
boudin. Même avec les techniques les plus modernes.
Un jour, aux Archives nationales, toujours aux Archives nationales, c'était là il y a une quinzaine d'années, on m'a fait venir en tant qu'expert parce qu'il y avait une équipe de télévision qui faisait une série d'émissions sur Marie-Antoinette et Fersen. Et cette équipe avait fait venir un spécialiste suisse avec des quantités d'ordinateurs. Alors, et on m'a dit quel passage faut-il mettre, alors qui me paraissait le plus brûlant. Et là, j'ai vu les lettres en rouge, en noir, en bleu, enfin en toutes les couleurs, impossible. Et on m'a dit c'est impossible. Seulement, là, j'ai un petit scoop pour vous.
Bravo.
Il se trouve qu'il y a une équipe qui travaille aux archives des Yvelines. Et cette équipe a repris les lettres, n'a pas pu, je pense, déchiffrer ce qu'il y avait sous les ratures, mais a revu des passages qui étaient simplement des passages codés, avec des chiffres qu'on n'avait pas déchiffrés. Et alors là, vous avez lu tout à l'heure une lettre de Marie-Antoinette où elle disait que vraiment elle aimait. Mais sur cette lettre-là, on rajoute ceci. Alors, j'existe mon bien-aimé et c'est pour vous adorer que j'ai été bien inquiète de vous, je vous plains. Bon, alors ça, c'est ce que vous avez lu tout à l'heure. Et à la fin, elle dit, je ne pourrai plus vous écrire, ça on le savait, mais rien au monde ne pourra m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. Et il y a encore d'autres passages de ce type. Donc, il y a de sa part à elle une véritable passion. Ça, c'est une évidence. Et elle l'ignore. Qu'au même moment, Fersen a une maîtresse qui est une aventurière italienne, Eleonora Franchi, qui avait épousé, qui a eu plusieurs, et qui vit avec un vieil amant anglais,
un vieil amant anglais.
Quentin Crawford, et cette Mrs. Sullivan qui vit avec Quentin Crawford est amoureuse de Fersen, et Fersen vit en grande partie, là nous sommes à l'époque de la Révolution, et il vit en grande partie avec elle, et il trompe et aimablement tous les deux Crawford. C'est pas très 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 glorieux, mais ce qui est très touchant dans l'histoire, c'est qu'Éléonore fait tout pour sauver la reine, et elle aime Fersen, et elle aime l'amour que Fersen porte à la reine. Ça fait un trio, un quatuor
incroyable,
mais je crois que tout ceci s'explique dans la tête de Fersen, parce qu'il aime surtout la souveraine, et il est touché par l'amour de la femme. Et alors, lorsqu'il perd Marie-Antoinette, Et bah, on peut suivre aussi son journal, parce qu'il y a le journal de Fersen.
Oui, moi j'étais un peu pris par le temps là sur les dernières, oui, les dernières années, mais c'est important de revenir.
Le journal de Fersen, vous avez dit très justement, il se conduit comme un veuf, mais il ne vit qu'avec le souvenir de l'aimer. Et il y a des passages absolument déchirants. Quand il apprend sa mort, il cherche le baron de Breteuil pour aller pleurer avec lui. Il rencontre que madame de Fitzjames et il pleure. Et son journal, on peut dire, est inondé de larmes aux anniversaires de la mort de la reine.
C'est presque un amour rétrospectif d'une certaine manière, de sa part à lui.
Il y a un amour rétrospectif et puis il dit, je sais combien je l'aimais, j'ai des torts envers elle, il reconnaît les torts. Alors, les torts, on ne sait pas exactement ce que c'est. Peut-être c'est d'avoir eu comme maîtresse une aventurière sans grand intérêt, qui avait d'autres talents, bien évidemment. Mais il voue un culte à Marie-Antoinette et il va recevoir... peu de temps, dans les 2 ans qui suivent la mort de la reine, il va recevoir encore des témoignages d'amour parce qu'elle a réussi à lui faire passer des petits billets. Et puis en particulier, elle avait un cachet qui était leur cachet à tous les deux. Et sur ce cachet était écrit en italien « Tout me conduit vers toi, tutto a te me guida ». Et là, il le reçoit, mais l'empreinte sur un petit bout de carton a été effacée. Mais il le colle dans son journal.
C'est-à-dire que bien après la mort même de la reine, il continue de recevoir comme ça, on lui distille des preuves d'amour.
D'amour. Et quand je pense que dans sa dernière lettre, elle dit « J'avais des amis, l'idée d'en être séparée. Bon, et qu'ils sachent que jusqu'à la fin, j'aurais pensé à eux. » Jamais il ne connaîtra cette lettre. Mais il est évident que c'est Fersen qui est désigné. Enfin, elle avait aussi d'autres amis qu'elle aimait. Mais enfin, là, Fersen, c'est quand même l'homme qu'elle a aimé et aimé d'un amour profond. Et c'est ce qui d'ailleurs, alors... Aussi, si on remonte dans la période, disons, heureuse de sa vie, à partir du retour d'Amérique, cet amour...
83, donc.
83, 84, et les années qui suivent, ça la stabilise. Elle n'est plus dans cette espèce de tourbillon de plaisir.
De fuite en avant. Alors, on dit que c'est parce qu'elle a eu des enfants, mais c'est aussi sans doute...
Vous savez, ces enfants, si vous lisez... Alors là, il y a un texte formidable. C'est le journal du marquis de Bombel, qui était, lui... sa belle-mère s'occupait des enfants parce que c'était la sous-gouvernante. Et si vous lisez le journal du marquis de Bombel, vous vous rendez compte que Marie-Antoinette s'occupe moins de ses enfants que la légende ne le dit. Elle aime ses enfants. Mais enfin, bon...
Un petit peu loin.
Non, pas d'un petit peu loin. Elle les aime, mais bon, elle aime aussi cet homme. Et là, mais ça la stabilise, curieusement.
Alors je crois qu'on peut dire que la réponse est maintenant très claire, que vous n'avez pas du tout cherché à fuir la question de nos auditeurs. Oui, Marie-Antoinette avait une passion pour Fersen.
Mais j'ai pas dit qu'elle avait couché avec lui.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de l'opéra L'ami de la maison d'André Gretry. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Axel de Fersen, avec votre invitée Evelyne Levert, historienne, auteure de C'était Marie-Antoinette aux éditions Fayard.
Et figurez-vous que je voudrais river un peu leur clou à toutes les mauvaises langues qui prétendent qu'aujourd'hui nous faisons de l'histoire à l'eau de rose, puisque cette affaire de Fersen nous permet aussi de parler un peu de la Suède, très grande puissance du XVIIe siècle, devenue en quelque sorte une moyenne puissance du XVIIIe, Evelyne Levert. Elle aurait pu être plus puissante que la Russie avant 1709, avant la bataille de Poltava. Hein.
Oui, enfin, au temps de Gustave Adolphe, c'est une très grande puissance, mais là, évidemment, ce n'est plus la même chose. Et c'est d'ailleurs ce qui gêne le jeune Fersen, c'est la raison pour laquelle il vient chercher à faire une carrière militaire en France et non pas en Suède. Et il aura toujours la, je vais pas dire la terreur, mais enfin, ça l'ennuiera beaucoup de retourner dans son pays natal qui lui donne l'impression d'une province reculée.
Il y a pourtant... province où il est pourtant particulièrement bien traité, puisqu'il est le fils d'un des grands personnages du royaume de Suède.
Mais oui, son père, le comte Fersen, est un personnage très important qui est à la tête d'un parti aristocratique qui est le parti des chapeaux, qui s'oppose au parti des bonnets. Alors le parti des chapeaux, c'est le parti aristocratique contre le parti bourgeois. Et le comte Fersen s'est quand même opposé, parce que la noblesse suédoise voulait avoir la haute main sur la monarchie, enfin sur le roi. Et le roi Gustave III, le jeune Gustave III, a fait un coup d'État. Et ce coup d'État devait lui donner le pouvoir pratiquement absolu, et c'est le type même du despote éclairé.
Et parce que, et on là, pense toujours à Frédéric II et à la Grande Catherine, on oublie Gustave III qui peut-être est l'archétype du despote éclairé.
C'est l'archétype du despote éclairé, et l'homme est particulièrement intéressant. C'est un homme d'une culture énorme. Il parle un français extrêmement châtié. Il a fait lui aussi le grand tour, c'est-à-dire qu'il a voyagé dans toute l'Europe. Il est curieux de tout. C'est un esthète. Et il connaît aussi toutes les théories politiques qui ont été élaborées, disons, au cours des siècles. Et c'est un homme des Lumières. Alors seulement, il a un caractère qui est assez fantasque.
Et très impérieux.
Très impérieux, très capricieux. Très admiratif de la France, et il va vouloir
il collectionne la porcelaine, etc.
Oui, et il fait construire en particulier à Stockholm un pavillon qui ressemble au pavillon de Trianon, qui est l'admirable petit Trianon qu'on appelle le palais de Haga, qui se prononce Hogo. quand vous demandez à Haga,
les gens ne savent même pas de quoi on parle.
Ah, on vous répond, oh oui, Hogo. Oh. Bon, alors c'est le petit Trianon suédois qui est absolument ravissant. Il y a un petit théâtre aussi, il y a des pavillons chinois. Enfin, Gustave III est à la fois réaliste pour la politique de la Suède, et il est aussi dans le rêve complet, un rêve théâtral pour le décor et pour le style de vie. Et il veut copier la cour de France.
Le fameux style gustavien.
Le style gustavien.
Gustave va venir d'ailleurs.
Il est venu deux fois en France.
Il fait des voyages en France. Et notamment, au cours d'un de ses voyages, il embarque, si je puis dire, notre Axel de Fersen.
Il l'a embarqué, c'est en 1784. Alors, Fersen devait revenir à Versailles. Il était allé en Suède. Et puis, il doit rejoindre Gustave, qui va en Italie avec toute sa suite, et Fersen, on peut dire, est un favori de Gustave, sans prêter à ce mot un sens équivoque. Il est un des favoris de
Vous
Gustave.
Dites sans prêter un sens équivoque, parce que Gustave III était homosexuel,
oui,
par ailleurs.
Et alors, il y a quantité d'histoires, en général, sont des histoires avec des officiers de la garde, etc. etc. Et il aime bien être au milieu de beaux hommes. Et Fersen est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Mais enfin, on n'a jamais prêté à Fersen, de mœurs homosexuelles. Il a été l'amant de plusieurs femmes. Alors, je sais bien que le donjuanisme peut signifier aussi homosexualité, mais je ne crois pas que ça a été le cas de Fersen. Mais en tout cas, il aimait, je parle de Gustave III, s'exhiber avec de beaux hommes. Alors, il y a un périple extraordinaire en Italie, où ils sont reçus par le pape, et le voyage doit se terminer à Paris et à Versailles. Et alors là, il y a des lettres. Et il y a aussi le journal de Fersen où il dit écrit à Joséphine, parce que Joséphine, c'est Marie-Antoinette, c'était le nom de code pour Marie-Antoinette, oui, que je ne peux pas être là avant le roi. Bon, et finalement, il arrive comme une bombe, je parle de Gustave III, avec Fersen et puis d'autres jeunes officiers suédois à Versailles. Louis XVI, à ce moment-là, le reçoit pas très bien, parce que Louis XVI était à la chasse, la reine n'était pas là, et il a fallu habiller Louis XVI à la dernière minute. On ne savait pas comment l'habiller.
Au déboté, c'est le cas de le dire.
Au déboté, il paraît qu'il avait deux chaussures différentes. Enfin, Et là, la reine a revu Fersen. Alors là, il y a quelque chose d'assez amusant si on prend les comptes des bâtiments royaux. Eh bien, on se rend compte que peu de temps avant son retour, il écrit dans son journal et écrit à Joséphine de m'aménager un poêle avec le poêlier suédois qui a fait des poêles pour la comtesse de Provence. Et si on voit les comptes des bâtiments du roi, on s'aperçoit qu'il y a une pièce au-dessus de la chambre de Marie-Antoinette où il y a eu des travaux avec un poêlier, c'est un poêlier, c'est le monsieur qui fait
qui fabrique les poêles.
Et bien, il y a un poêlier suédois qui est venu aménager un système de chauffage. Alors, au cours de cette réception de 1784, alors la reine a donné une réception absolument extraordinaire dans les jardins du Petit Trianon, et qui était complètement illuminé, et tout le monde devait être vêtu de blanc. Et Gustave III a écrit, c'était un véritable spectacle des Champs-Élysées. En fait, c'était les Suédois qui étaient à l'honneur.
Champs-Élysées à l'antique, là, en l'occurrence.
Bien entendu, Champs-Élysées à l'antique, vous imaginez bien. Et c'est Gustave qui l'écrit lui-même. Et Marie-Antoinette est auprès de tous les Suédois, ne prend pas part au repas, mais elle va des uns aux autres. Et c'est ça a été sans doute la plus belle fête que l'on ait donnée sous le règne de Louis XVI. Et c'était en principe une fête intime, enfin il y avait quelques centaines de personnes.
C'était une intimité toute relative.
Toute relative,
évidemment.
Mais ils n'ont certainement pas pu se parler.
Voilà. Bon. Alors, on ne sait pas quelles étaient exactement leurs relations du temps de la monarchie absolue. Sous la Révolution, une intimité se crée, incontestablement, entre Fersen et Marie-Antoinette.
Écoutez, même avant la Révolution, parce que même avant la Révolution, à partir justement de cette fête-là, il est bien sûr à Valenciennes, mais il revient fréquemment et elle part à cheval et lui part à cheval de son côté et il se retrouve dans les jardins de Trianon. Il y a une grotte dans laquelle on pouvait s'installer. Elle existe toujours, cette grotte, mais on ne voyait rien.
Une grotte artificielle, bien sûr.
Oui. Et on ne pouvait pas voir qui était dans la grotte et on voyait de la grotte qui pouvait venir. Enfin, il y a quand même plusieurs rencontres. Et les petits appartements de la reine sont des petits appartements dans lesquels elle peut inviter une ou deux personnes sans que la personne soit vue, parce qu'il y a différents moyens d'accéder aux petits appartements. Donc c'est une évidence, ils se voient et personne n'en parle.
Patrick nous demande, et si Axel de Fersen était resté lors de la fuite manquée vers Varennes ?
Alors c'est une question tout à fait judicieuse, parce que si la fuite a échoué, c'est que Louis XVI avait la vocation de l'échec. Il avait plusieurs occasions où il pouvait vraiment se sauver quand il a été arrêté à Varennes. Mais un officier comme Fersen, qui avait quand même une certaine expérience de la vie, puis une expérience de militaire.
Et qui était motivé par la passion.
Qui était motivé, bien entendu. Eh bien là, faire certainement, il serait arrivé à Montmédy. Cela dit, ça ne veut pas dire forcément que...
On ne sait pas
ce qui se serait passé, mais ils seraient arrivés au bout de leur voyage.
Et pourquoi est-ce que Fersen est descendu de la voiture à Bondy ? Est-ce que c'était prévu ? Ou est-ce que c'est une foucade de Louis XVI ?
Alors, on n'en sait strictement rien.
Mais c'est ça, voilà.
On n'en sait strictement rien. Louis XVI lui a dit « Merci, monsieur de Fersen ». Bon, Fersen a sans doute insisté, le roi n'avait rien voulu entendre.
Est-ce que le roi était conscient du type de liaison qu'il y avait entre sa femme et...
Si on en croit le comte de Saint-Prix, qui était ministre de la maison du roi,
Donc bien placé,
comte de Saint-Prix dit, vous voyez ceci, il s'était établi au village d'Auteuil chez un de ses amis, d'où il se rendait à Saint-Cloud sur la Brune. Je fus averti qu'un sergent des gardes françaises, appelé alors garde soldé, avait dit que rencontrant Fersen à 3h du matin sortant du château, il avait été sur le point de l'arrêter. Je crus devoir en parler à la reine et lui observer que la présence du comte Fersen et ses visites au château pouvaient lui être de quelque danger. « Dites-le lui, répondit-elle, si vous croyez à propos. Quant à moi, je n'en tiens pas compte. » Et là, le même Saint-Prix disait que elle avait, ça c'est Saint-Prix qui le dit, elle avait fait agréer par Louis XVI sa liaison. Mais peut-être aussi, elle lui avait dit, c'est le seul étranger c'est le seul qui puisse nous aider. C'est ambigu, oui, c'est ambigu.
D'autant plus qu'il va l'aider encore après, et même peut-être davantage même après la fuite à Varennes, puisqu'il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de libérer la famille royale et la reine en particulier.
Oui, mais alors là, c'est là qu'il va commettre toutes les erreurs possibles.
Et on parle de Fersen, bien entendu.
Oui, il va commettre toutes les erreurs possibles et imaginables, et on peut dire qu'il a toujours mal conseillé la reine. Elle est obligée de s'expliquer avec lui et il va venir à Paris pour faire le point avec elle au mois de février 1792, c'est-à-dire 7 mois avant la chute de la monarchie. Et là encore, il va s'introduire dans ses appartements, c'est la dernière fois qui se verront, et il s'introduit dans ses appartements par son chemin habituel, comme il dit. Il reste là 2 jours. Alors, vraisemblablement, il a passé la nuit au château. Alors, est-ce qu'il l'a passé dans l'île de la Reine ? Ça paraît quand même difficile, parce qu'il y a quand même une surveillance de tous les instants. C'est pas du tout évident, parce que c'est Stefan Zweig qui, dans sa magnifique biographie, avait dit, n'est-ce pas, si on est un homme qui sent avec sa chair et son sang, même s'il n'avait pas été amant, ils auraient été amants à ce moment-là. C'était pas, il y avait eu quand même beaucoup d'autres occasions si ça avait dû avoir lieu, de telle sorte que là, il est resté là, et le lendemain il est parti chez Éléonore, où il est resté plusieurs jours.
Et oui.
Parce qu'elle était à Paris, rue de Clichy, toujours dans l'hôtel de Crawford.
Toujours cette grande ambiguïté. Merci infiniment Evelyne Levert.
Merci à vous.
Vous avez
Franck
répondu
Ferrand.
Très clairement. Je rappelle évidemment que vous êtes l'auteur, notamment chez Fayard, de C'était Marie-Antoinette, et puis des biographies, hein, de Marie-Antoinette, de Louis XVI, etc. Vous êtes la grande spécialiste de la question.
Oh, écoutez.
Qu'est-ce que vous nous préparez en ce moment ?
Le dictionnaire amoureux des reines.
Oh bravo, nous attendons ça avec impatience.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Laurent. Il souhaite connaître l'origine de l'expression « tomber en pamoison ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, par mail donc. Et il aimerait que vous reveniez sur l'origine de l'expression « tomber en pamoison ».
Et oui, en pamoison, se pâmer, tout cela vient du latin « spasmare ». C'est la racine « spasmus », vous savez, les spasmes, les convulsions. Hein. C'est la même racine. En ancien français, ça avait donné « espam ». L'espam, c'était une sorte de syncope, si vous voulez, d'évanouissement. Et puis, on parle de se pâmer textuellement à partir du XIIIe siècle. Ça veut dire se sentir mal à la suite d'une très vive émotion. Et on va dire de plus en plus, au XIVe, XVe siècle, on va dire de plus en plus tomber en pâmoison pour désigner ce trouble ressenti sous l'effet d'une très violente émotion. Évidemment, aujourd'hui, c'est un terme désuet, mais on continue à l'employer, cela dit, avec un peu d'ironie et d'humour, bien entendu. Alors, pour certains historiens du langage, il semblerait que l'expression « tomber dans les pommes » vienne directement de là. C'était au départ « tomber dans les pâmes », si vous voulez. Il y a une autre possibilité. George Sand, notamment, écrit un jour à sa fille « Je suis dans les pommes cuites ». Alors, « tomber dans les pommes », ça voulait aussi peut-être... ça venait peut-être aussi de cette expression populaire.